Il crie et il bondit. Deux traits caractérisent cette scène qui occupe une place particulière dans l'Évangile, puisqu'elle précède immédiatement l'entrée de Jésus dans Jérusalem où il va vivre sa passion. Deux traits inattendus de la part d'un aveugle, un mendiant qui est assis au bord d'un chemin. Il crie et il bondit. D'où lui vient une pareille énergie? Il arrive que des personnes de la rue se mettent à crier, parfois sous l'effet de l'alcool ou de la démence. On connaît tous aussi des gueulards qui sont plutôt assez souvent des comédiens. Les cris sont assez artificiels, c'est une posture. Bartimée, lui, c'est pas la même chose. Il crie d'abord parce qu'il est habitué à mendier. Vous savez que les péchés commencent petits, mais les prières aussi. Les prières aussi parce que pour crier vers Dieu, il faut avoir un bon entraînement. Il faut avoir demandé, supplié pendant des années. Il ne faut pas imaginer une réaction de désespéré. Le désespéré est résigné. Le désespéré, c'est le titre d'un roman de Léon Blois, fin du 19e siècle. Léon Blois, mendiant ingrat, pèlerin de l'absolu, sont des titres de partie de son journal. C'est comme ça qu'il se qualifiait lui-même. Il était tout sauf désespéré. C'était un furieux, vraiment un furieux, insupportable, assez drôle d'ailleurs, rafraîchissant, spécialiste de ce qu'il appelait l'enthousiasme contre. Il peut être enthousiaste pour normalement, mais lui, il était enthousiaste contre. Les désespérés, eux, ne font pas de bruit. Les désespérés sont éteints, silencieux, résignés. Tandis que Bartimée, il crie, et à la réponse de Jésus qui lui est rapportée, qui lui est transmise, confiance, il t'appelle, il bondit. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Il bondit. Comme un diable hors de sa boîte, comme le remplaçant qui entre à la fin finalement sur le terrain. Je parle d'expérience, moi j'étais souvent remplaçant, il fallait toujours attendre la fin du match, pratiquement les dernières minutes, pour que, c'était prémonitoire, c'était au football club des Ternes à l'époque. Mais il y a très longtemps. Comme le cheval qui piaffe ou comme le fauve qu'on relâche, c'est ça? Non, c'est plutôt comme Zachée. Vous savez, Zachée qui est venu voir Jésus qui, en courant et qui monte sur un sycomore et quand Jésus l'appelle, plein de joie, il bondit de joie. Il y a une scène magnifique dans le livre des Actes des Apôtres qu'on appelle la guérison du boiteux de la belle porte. Il y a Pierre et Jean qui vont entrer dans le temple et le boiteux qui est à la porte, puisqu'il n'a pas le droit d'entrer dans le temple, leur demande l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui. « Regarde-nous !» L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !» Il le prend par la main, il le relève, aussitôt ses chevilles, ses pieds s'affermissent, il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, il bondissait, il louait Dieu. Mes amis, cette puissance de vie, vous l'avez en vous, nous l'avons tous en nous. Cette puissance de vie, c'est ce que le Christ est venu révéler, unifier, parfois libérer. Cette puissance de vie, c'est ce qui nous permettra de ressusciter. Pour saint Thomas d'Aquin, le cri de Jésus sur la croix, au moment de rendre l'esprit, il poussant un grand cri, il expira, c'était un des plus grands miracles du Christ. Un des plus grands miracles. Il est bon de rappeler les deux dimensions constitutives du miracle, à quelques jours de la Toussaint, puisque les miracles sont la condition de la béatification, de la canonisation. Les miracles viennent confirmer un enseignement et attester de la présence de Dieu. Juste avant les vacances, ici, au catéchisme, j'ai demandé aux enfants s'ils pensaient que j'étais capable de faire un miracle. Je leur parlais, je reprends avec eux les articles du Credo,
pour qu'au moins au bout de 3 mois, ils connaissent le credo, et je leur parlais du 3e article du credo, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Et je leur demandais, comment est-ce que nous savons qu'il est vraiment Dieu ? Par ses miracles, bien sûr, par les prophéties, il y a d'autres raisons, mais par ses miracles. Au moment de la consécration, au moment de la messe, je ne fais pas un miracle. Ce n'est pas moi qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. C'est l'Esprit Saint. Le miracle de la présence de Dieu à la messe. Et pour certains d'entre nous, notre présence à nous d'ailleurs aussi. C'est l'énergie qui est donnée par l'écoute de la parole de Dieu et par la réception également dans la foi du pain de vie, de l'hostie consacrée, la présence réelle. Et vous savez, nous savons bien ce qui peut entraver cette énergie. L'entraver, l'étouffer. Vous avez même, certains d'entre vous, le sentiment d'être un peu comme Bartimée, de ne pas être les acteurs de votre vie, de subir ce que vous vivez, d'être un peu comme lui, à l'arrêt, au bord du chemin. Et vous me le dites parfois même avec amertume, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose parce que on vous rabroue, on vous fait taire chaque fois que vous voulez exprimer le désir le plus profond de votre cœur, « Je veux voir Dieu !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Je veux voir Dieu !» Le Dieu que je veux voir, c'est le Dieu de miséricorde, le Dieu qui aura pitié de moi. Et oui, il est fils de David. Il est fils de David parce que c'est David qui a interdit aux aveugles et aux boiteux d'entrer dans le temple. Et seul le fils de celui qui a eu le pouvoir de lier a le pouvoir de délier. Ne peut lever une sanction que celui qui a le même pouvoir que celui qui l'a infligé. Seul peut libérer en nous l'énergie que nous avons, seul peut la libérer celui qui nous l'a donnée. Seul peut nous sauver celui qui nous a créés. Avec cette précision que rappelaient toujours les pères de l'Église, que Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Et nous, nous allons voir Dieu pour lui demander pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous sommes au bord de la route, pourquoi nous sommes dans une situation pareille, pourquoi nous vivons de telles épreuves, au lieu de lui demander comment en sortir. Pourquoi sommes-nous parfois dans des situations pareilles? Eh bien, l'Évangile y répond en montrant ce que nous vivons en permanence. L'indifférence pour ceux qui sont au bord de la route, les aveugles, les mendiants, et surtout ceux qui dérangent, ceux qui font du bruit, ceux qui nous gênent. Oh, qu'on les fasse taire. Mais qui dira à son frère, en lui parlant de Jésus, « Confiance, il t'appelle !» Est-ce que nous croyons que Dieu est présent dans le cœur de toute personne que nous rencontrons? Et même que nous rencontrons pour que nous lui le révélions, pour que nous l'aidions à réveiller cette énergie intérieure. En un mot, à ressusciter. Ce qui importe, ce n'est pas notre énergie à nous. Ce n'est pas la force que nous pouvons ressentir ou pas. C'est la force de Dieu qui nous relie à nous, à lui, et qui nous relie entre nous. Ici, au début de la semaine, lundi dernier, j'ai célébré les obsèques d'une femme qui a passé ces dernières années, on pourrait même dire ces dernières semaines de souffrance, ces dernières semaines de maladie, à s'enquérir auprès de ceux qui venaient la visiter de ce qu'ils vivaient. Plus ses forces s'amenuisaient, plus son amour grandissait. Au point qu'un de ses amis qui est médecin, par téléphone, quelques jours avant sa mort, a pu lui citer par téléphone, a dit « Je te souhaite une bonne mort ». Vous voyez, la confiance. Et son dernier message à ses amis, c'était « Dites bien que toute ma vie, j'ai cru en Dieu. » Cet aveugle qui criait, beaucoup essayaient de le faire taire.
et les autres. Beaucoup essayaient de le faire taire, mais il y avait une foule nombreuse, il y avait les disciples, une foule nombreuse, les autres. Que disait-il? Que faisait-il? Rien. Il ne s'est trouvé personne pour intervenir en sa faveur. Personne pour prendre sa défense, pour dire quelque chose avant que Jésus le fasse appeler. Personne pour s'occuper de lui.
Mes amis, il y a une règle chrétienne impérative. Dès lors que quelqu'un dérange, que l'un au moins d'entre nous intervienne en sa faveur ou prenne sa défense. Vous savez à quel point il nous arrive de nous mettre à plusieurs ensemble pour dire du mal de quelqu'un. C'est pas bien, on se dit c'est pas si mal quand c'est fondé. Peu importe, le sujet n'est pas là. Le sujet est de faire en sorte que chaque fois qu'une personne est critiquée, jugée, rejetée, il y ait au moins l'un d'entre nous qui prenne sa défense. C'est l'exemple que donne Jésus. Lui seul fait droit à ses cris. Vous en souviendrez, souvenez-vous la prochaine fois que vous serez dans un dîner ou que vous participerez à une discussion et que tout le monde tombera à bras raccourcis sur une personne. Vous, chrétiens, vous trouverez quelque chose à dire pour sa défense. Voilà pourquoi cette scène est une parabole de la passion. Une parabole de la passion où Jésus, abandonné des siens, rejeté de tous, sacrifié au nom d'une certaine tranquillité, révèle la puissance infinie d'amour de Dieu dans notre humanité. C'est ce que nous allons fêter à la Toussaint. Tous ceux qui, à son exemple et à sa suite, se sont portés auprès des plus pauvres, auprès de ceux qui étaient délaissés, ont vu la grâce qui leur a été donnée. Ils ont vu l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Voici le Seigneur Dieu, il vient prendre ma défense. Voici le Seigneur Dieu, il vient prendre ma défense. Voilà la grâce à demander que nous puissions, quel que soit l'aveuglement de nos péchés, être capables de crier « Seigneur, Seigneur, réveille en nous ta puissance de vie, viens nous sauver. »